La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Un tout petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. Depuis 6 heures, temps universel, RFI vous propose une matinée spéciale à l'occasion du 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Incontestablement, l'aventure spatiale la plus incroyable jamais entreprise par l'homme. Avec Simon Rosé du service science de RFI, nous allons donc revenir et revivre cette épopée en répondant à toutes vos questions. Bonjour Simon.
Bonjour Juan, bonjour
à tous. Merci d'être avec nous, visiblement. Le sujet ne laisse pas indifférents nos auditeurs, si j'en crois les centaines de messages postés sur notre page Facebook et sur notre compte WhatsApp. Des questions évidemment sur les origines de la conquête lunaire, sur la mission Apollo 11, sur les trois astronautes. Et oui, ils étaient trois. On parle forcément de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin, mais n'oublions pas tout de même Michael Collins. On en parlera, je l'espère, dans le courant de cette émission spéciale. De nombreuses questions, et là, ça bat tous les records, sur les rumeurs et les théories de complot qui remettre en question la mission Apollo, des questions également sur les retombées scientifiques des différentes missions, sur l'avenir de l'exploration lunaire. On va prendre le temps avec Simon Rosé de vous répondre ce matin et on va essayer de prendre le plus grand nombre d'auditeurs au 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à poster sur Facebook et WhatsApp. Simon Rosé, je vous demande pas ce que vous faisiez le 21 juillet 1969 à 3h56 heure de Paris.
Non, j'avais moins 16 ans, je crois.
Moins 16 ans, effectivement. Ça, ouais. Moi non plus, je n'étais pas né. Mais Abdoulaye, lui, a veillé très tard ce jour-là. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Vous êtes à Nice, vous aviez 29 ans à l'époque.
Par coquetterie, je dirais 28 ans.
28 ans par coquetterie. Que faisiez-vous dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969
J'étais sorti avec des amis, comme on n'avait pas la télévision à la maison, on est sorti, on est allé dans un local public, un bar qui était ouvert, bien que c'était tard, sur la Via Nomentana.
Vous étiez à Rome à ce moment-là?
Oui, oui.
Et vous avez donc assisté à cet événement historique devant la télévision?
Effectivement, on l'a vécu en direct. Et c'était très émotionnant, comme vous pouvez l'imaginer. Le temps est passé, je me rappelle encore la tension avant l'allunage qui se sentait à la télévision en direct à Rome et puis à Houston.
Ouais. Vous faisiez partie, de ces 600 millions de personnes qui regardaient la télévision à ce moment-là. Simon Rosé, c'était une prouesse technique, rien que de pouvoir assister à cet événement devant son écran.
Bah, c'était une des premières. Il y a eu quelques difficultés justement là-dessus puisque le module lunaire se pose sur la Lune. Les astronautes, après, il faut qu'ils se préparent, il faut vérifier que tout marche, qu'ils puissent repartir en catastrophe s'il le faut. Ça prend du temps et ils ont mis 6 heures pour faire tout ça avant que Neil Armstrong sorte et fasse effectivement son premier pas sur la Lune. 6 heures, en fait, c'était court parce qu'ils ont pressé le pas et à l'origine, ils devaient prendre un peu plus de temps. Et ce qui a posé des problèmes, notamment pour réserver les faisceaux de télévision, ce genre de choses, ce qui a bien embêté les ingénieurs audiovisuels, en quelque sorte, les moyens de transmission qui sont depuis la Lune, donc la caméra qui est posée sur le LEM, qui envoie Michael Collins, on en parlera, qui est toujours en orbite autour de la Lune, qui envoie ensuite vers la Terre. Il y avait toute un dispositif technique assez conséquent mis en place pour permettre à la NASA de retransmettre en mondovision, c'est une des premières fois qu'on le fait, un événement tel que celui-là.
Ouais, c'est important pour vous, Abdoulaye, de célébrer, de fêter ces 50 ans?
Mais c'est très intéressant. Avant tout parce que j'ai pu survivre tout ce temps. Et ensuite, j'ai pu voir ce que ça a apporté comme bénéfice à l'humanité. Parce que ça a constitué un pas de géant, comme l'a dit Armstrong, pour l'humanité. Il y a des techniques qui sont améliorées. Il y a les retombées...
les retombées
techniques ont été très intéressantes.
Oui, on va y revenir d'ailleurs, on a plein de questions sur les retombées, les répercussions de cette prouesse humaine. Abdoulaye, merci de nous avoir contactés sur Facebook. Alors tout le monde n'avait pas la télévision à ce moment-là. Mouktar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Conakry, vous aviez 9 ans et vous écoutiez la radio.
Oui, tout à fait. J'écoutais la radio, en particulier la Voix de l'Amérique.
Voice of America.
Oui, la Voix de l'Amérique, on l'écoutait beaucoup à l'époque.
Oui.
J'avoue que j'étais très jeune, je ne peux pas savoir à ce qui concerne les préparatifs de la Apollo 11. Je pense que c'était la lune phase, c'est passé au cours, je pense, au cours d'une nuit. Et le lendemain, nous étions à l'école, j'ai entendu beaucoup de gens en parler.
Mmh.
Alors, avant cela, je ne pouvais pas penser qu'on pouvait envoyer quelqu'un sur la Lune. Moi, la Lune était un symbole, surtout en Afrique. Il n'y a pas de courant, tout le monde regarde la Lune. Mais lorsqu'on a dit que les gars ont débarqué sur la Lune, alors c'était une grande interrogation chez moi. Et j'ai entendu beaucoup de gens parler, moi aussi je me suis intéressé. Mais c'est seulement mes maîtres à l'école, c'était à l'école primaire, qui nous ont convaincus et qu'effectivement il y a eu cette opération-là. Et le même jour où j'ai entendu la Voix de l'Amérique, à l'époque où le président des États-Unis, M. Richard Nixon, qui avait adressé un message de félicitations aux astronautes, et aussi il paraît qu'il avait pris contact avec eux directement à partir de la Maison Blanche.
Oui, effectivement, on voit Simon Rosé ces images du président Nixon au téléphone avec les astronautes.
Ah bah comme il le dit lui-même, c'est le coup de fil le plus improbable envoyé de passer depuis le bureau ovale. Effectivement, quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont en train de faire leur sortie sur le sol lunaire, Richard Nixon les appelle pour les féliciter.
Ouais, c'est en tout cas voilà l'aventure spatiale humaine la plus incroyable, la plus improbable jamais entreprise. Beaucoup de questions. Simon Rosé, Trésor, on va commencer avec vous. Vous êtes à Kisangani, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour, M. Swan Gomez, et bonjour à toute l'équipe de l'actualité.
Nous vous écoutons.
Oui, comment est né le projet d'aller sur la Lune et qui est à l'origine de cette idée?
Ah, on va replonger dans le contexte de l'époque, Simon Rosé, dans la rivalité que se livraient les États-Unis et l'URSS.
Oui, première date importante, 1957, Sputnik, les Russes qui envoient le premier objet en orbite autour de la Terre. 1961, Yuri Gagarin.
Oui.
Premier homme dans l'espace. Donc le début de la conquête spatiale s'écrit vraiment en russe hein, dans ce livre-là. Se lance une discussion aux États-Unis au plus haut niveau de l'État sur comment faire un projet qui va fédérer l'ensemble de la population américaine, un projet scientifique, un projet technique. Assez vite, l'idée de la Lune, du premier alunissage d'un homme sur notre satellite émerge. C'est d'ailleurs le vice-président de l'époque, Johnson, qui avance plutôt cette idée. La communauté scientifique à l'époque est emballée, mais pas plus que ça. C'est vraiment à l'origine un projet technique.
Parce il faut dire que les ingénieurs américains ne maîtrisaient pas du tout les technologies nécessaires pour aller sur la Lune.
Ah bah Alan Shepard, le premier homme à l'époque, les Américains n'ont pas envoyé d'homme dans l'espace, ne savent pas gérer la technique des rendez-vous orbitaux qui sera très importante. Et quand Kennedy fait son discours en 61 où il dit « Nous visons la Lune pas parce que c'est facile mais parce que c'est difficile », tout reste à faire, c'est une page blanche pour les Américains.
Nous visons la Lune en rivalité aux Russes.
Il y a ce contexte de course à l'espace, ce contexte géopolitique. En réalité, assez vite, on comprend que, en fait, les Russes n'ont pas tant d'avance que ça, et en fait, ils ont arrêté de faire cette course dès 1967. 1967, on aura l'occasion d'y revenir. C'est un peu une année charnière. C'est l'accident d'Apollo 1 et surtout en avril, la catastrophe de Soyouz où Vladimir Komarov meurt et qui marque un vrai coup d'arrêt dans le programme lunaire russe. On aura l'occasion de revenir sur l'histoire, mais dans ce contexte de 1961, quand Kennedy fait ce discours, l'objectif c'est effectivement faire la Nico russe, mais également avoir lancé un projet qui va unir tout le pays derrière, et c'est pour ça qu'il y a cet objectif très ambitieux de 1969, avant la fin de la décennie.
Effectivement. Autre question, Jérémy, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à RFI, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Dakar au Sénégal, nous vous écoutons.
D'accord. Moi ma question c'est pourquoi les autres pays, les autres concurrents n'ont pas pu envoyer un homme sur la Lune?
Alors les autres concurrents, il y en avait qu'un, c'était l'URSS, qui effectivement, vous le disiez à l'instant Simon Rosé, au début des années 60, dominait la conquête spatiale, et malgré cette avance, ils n'ont pas réussi à marcher sur la Lune.
Plusieurs facteurs expliquent ça, des facteurs humains tout d'abord, par exemple Korolev, le père du programme spatial russe, meurt sur la table d'opération. Une crise de succession s'est un peu faite, et c'est assez paradoxal, puisqu'en fait les Russes avaient plusieurs compagnies, organisations, entreprises en concurrence en fait. C'est comme s'ils avaient développé plusieurs programmes lunaires en parallèle, avec le manque d'efficacité qui en découle, alors que les États-Unis ont travaillé à la soviétique avec un plan décennal, très pyramidal, qui a permis beaucoup plus d'efficacité. Concrètement, après, si on rentre dans les faits, justement, je le signalais, 1967, en avril 67, Komarov meurt, il s'écrase au sol après un échec de Soyouz. Soyouz, c'est un élément clé du programme lunaire russe. Il n'est pas prêt à l'époque, en 67. Et il faut également, pour aller sur la Lune, une fusée lunaire. L'américaine, c'est la Saturn V, la fusée la plus puissante jamais construite. On n'a jamais égalé ça depuis. Elle n'a aucun échec à son actif. La fusée lunaire russe, c'est la N1. Imaginez un espèce de gros fagot avec des moteurs empilés les uns sur les autres. Elle n'a jamais réussi un lancement. Donc à partir du moment où il manque une capsule qui est pas prête et une fusée qui n'a jamais décollé, bah, qui a décollé mais qui a explosé en vol, ça devient compliqué. Donc, et on peut l'expliquer ça par la désorganisation paradoxale du secteur spatial russe à l'époque.
Et donc les Russes ont abandonné à ce moment-là l'idée d'aller sur la Lune.
Et il y a des gens qui le disent dès 1967 que en fait les Américains font cette course tout seuls. Mais les Américains dépensent tellement d'argent qu'ils ne vont jamais admettre en fait que les Russes ont baissé les bras. Donc cet argument va continuer d'être perpétué pour le reste du programme.
L'argent, le nerf de la guerre. Bonjour Maurice.
Bonjour.
Vous êtes à Cotonou, au Bénin. Nous vous écoutons avec Simon Rosé.
Ok. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Ma question est la suivante. Combien a coûté en termes d'argent cette expédition?
Alors, on parlait. Oui.
Et comment a-t-elle été financée?
Alors, combien a-t-elle coûté cette mission Apollo? Des dizaines, des centaines de milliards?
Des centaines de milliards, si on compte en dollars d'aujourd'hui avec l'inflation. Le programme In Extenso Apollo, c'est 280 milliards de dollars. Donc d'aujourd'hui, au contraire,
280 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, hein.
C'est réparti sur plusieurs années.
Bien
sûr, évidemment. C'est pas d'un seul coup. Pourquoi? Parce que les Américains doivent tout développer encore une fois. Donc c'est quand je dis ça, c'est le programme Apollo à proprement parler pour aller sur la Lune. Mais avant, c'est les programmes Mercury pour apprendre à envoyer des hommes dans l'espace. Le programme Gemini pour apprendre à maîtriser toute les techniques orbitales, les techniques de rendez-vous et tout ça. Et ensuite Apollo. C'est 280 milliards de dollars, donc ils ont été dépensés sur les 10-15 ans.
C'est l'argent du contribuable.
C'est l'argent du contribuable, ce qui a suscité pas mal d'opposition à l'époque, puisqu'on est en pleine période de défense de
des droits civiques. Il y avait des revendications sociales et les Américains.
La veille du décollage d'Apollo 11, il y a un grand rassemblement à Cap Canaveral d'Afro-Américains qui justement ne comprennent pas pourquoi il y a autant d'argent dans le programme spatial et pas dans le programme social. L'année d'après, il y a Gil Scott-Heron qui chante sa chanson qui est assez connue, White is on the Moon. C'est j'ai pas d'argent pour me payer le médecin, mais hey, le blanc est sur la Lune. Donc on est un peu dans ce contexte-là. Grosso modo, à l'époque, le moment où la NASA a eu le plus gros budget, c'est en 1966, ça représentait 5,5% du budget fédéral américain. Maintenant, on est à peine à 1%. C'est colossal. C'était le plus gros poste de dépense à l'époque. Pourquoi il y a cette promesse de Kennedy? Il faut savoir également que Kennedy est mort entre-temps, donc il y a plus personne pour dire bon, 69, 70, c'était peut-être un peu ambitieux en fait, on va faire 75, 76, plus personne. On est un peu lié par cette promesse d'un président qui est désormais décédé alors qu'il était en pleine campagne pour sa réélection. Et les Américains sont allés au bout, ils ont fait ce qu'il fallait faire en termes de dépenses pour y arriver.
D'autres questions au standard d'appel sur l'actualité 339 693 693 70. Bonjour Rove.
Bonjour.
À Brazzaville, on vous écoute.
Votre courrier.
Ah, Votre correspondant
a raccroché.
Rove, ça a coupé. Bon, je me fais le porte-parole de Rove, qui voulait savoir comment avaient été choisis les astronautes pour cette mission. Les trois en question, comment ont-ils été choisis, Simon?
Bon, la NASA avait un corps des astronautes, qui avaient passé les examens, les entraînements, tout ça, essentiellement des mêmes que des militaires à l'époque. Alors pourquoi Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins?
Oui.
Il y avait eu l'accident d'Apollo 1 avec Virgil Grissom, Ed White et Roger Chaffee. Il était envisageable que l'un des trois fasse partie des premiers à aller sur la Lune.
On rappelle l'accident en question, la capsule brûle.
Voilà,
premier test.
Le premier test de la capsule Apollo. Donc c'est un test au sol.
Au sol. Ouais.
Donc il y a la fusée, la capsule qui est montée au sommet et on la met dans les conditions du direct. On la met dans les conditions de test. Et en fait, dans les capsules américaines, vu qu'il n'y a pas d'air dans l'espace, on la rempli d'air, mais sauf qu'on ne met pas de l'air comme nous, on met 100% d'oxygène, et l'oxygène est très inflammable. Mmh. Il y a eu un court-circuit et ça fait une véritable boule de feu, ils ont été bloqués à l'intérieur, ce qui a provoqué l'arrêt du programme pendant plusieurs mois.
Trois était censé aller sur la Lune.
C'était pressenti. Oui. Donc un siège se libère, c'est très cynique de le dire comme ça, mais un siège se libère. Et sont donc choisis Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Pourquoi Neil Armstrong est le premier à poser le pied sur la Lune? Parce que Neil Armstrong, même s'il était pilote d'essai et militaire avant, il a démissionné de l'armée et c'est un civil quand il vole. Et la NASA voulant faire un peu la promotion.
C'était important, évidemment.
De l'exploration pacifique de la Lune.
Parce qu'on était en pleine guerre du Vietnam.
Voilà. Mmh. Ça aurait été mauvais genre qu'un militaire pose en premier le pied sur la Lune. Donc, Neil Armstrong n'étant plus dans l'armée est tout désigné et au-delà de ça, c'était le meilleur, quoi. Il l'a prouvé lors de ses missions avant.
Il savait piloter un avion avant même de conduire une voiture. Il a eu son brevet de pilote à 16 ans.
Neil Armstrong, il a sauvé la mission Gemini 8 à laquelle il a participé, qui a failli complètement virer à la catastrophe. C'est grâce à sa présence d'esprit, son sang-froid. C'était un travailleur.
Et question potin, il n'y a pas eu des jalousies entre Armstrong et Aldrin pour savoir lequel des deux allait vraiment poser
sur le premier pas? Vraiment, parce que l'autorité, la compétence de Neil Armstrong était reconnue. Après, il y a des raisons, mais très bêtes. On n'y pense pas, mais dans le module lunaire, quand ils sont harnachés dans leur scaphandre prêts à sortir, c'est Neil Armstrong qui est plus proche de la porte.
Oui,
il n'y a pas la place pour que Buzz Aldrin le contourne, par exemple. Ce genre de choses, c'est auxquelles on ne pense pas, mais qui font sens, en fait, une fois qu'on est sur place.
Allez, autre question standard. Il nous reste 2 minutes 30 avant de retrouver la rédaction pour la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour, Benny.
Bonjour, Juan. Bonjour, Simon Rosé et à toute l'équipe RFI.
Merci de nous appeler de Kinshasa. On vous écoute.
Oui, j'aimerais savoir, du point de vue scientifique, que nous a apporté le voyage sur la Lune? Et ensuite, a-t-on fait une découverte majeure sur la Lune?
À quoi cela a servi d'aller sur la Lune, Simon Rosé?
Bon, il y a les deux côtés. Il y a le côté technique qui nous a permis de développer énormément de technologies encore utilisées aujourd'hui. Sur le côté scientifique pur, c'est vraiment la connaissance de la Lune. On a rapporté des échantillons, plusieurs centaines de kilos au total au cours des missions Apollo 11 à 17. Par exemple, le système, c'est les théories de formation de la Lune, qui sont un peu mieux en place. En gros, la Terre se forme, on est au tout début du système solaire, il y a 5 milliards d'années. La Terre se forme, c'est un agrégat de petites poussières qui forment au fur et à mesure une planète. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un objet énorme, à peu près la taille de Mars, on l'appelle Theia, qui vient percuter la Terre. Cet objet se désagrège complètement, emporte un bon tiers de notre planète avec lui. Et en fait, tout ça se reforme après en orbite pour former la Lune.
On en sait plus sur l'origine de la Lune.
Voilà.
Il y a quoi, 4 milliards d'années?
C'est ce laps de temps. Des choses plus terre à terre. Oui. Apollo 11, ils ont posé un réflecteur laser sur la Lune, une espèce de miroir. Si depuis la Terre, vous tirez un laser sur ce miroir, il revient à vous, vu qu'on connaît la vitesse de la lumière. On en déduit la distance qui a été parcourue et c'est comme ça qu'on a découvert que la Lune s'éloignait de la Terre. 3,7 cm par an, en moyenne, la Lune, petit à petit. On va finir par la perdre un jour.
Et régulièrement, on le teste, ce fameux...
Puis c'est une expérience qui est... Ça demande un peu de matériel, mais qui est quand même reproductible assez aisément. Et c'est une bonne preuve, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, de constater que oui, il y a des gens qui sont allés sur la Lune parce qu'on a posé un miroir qu'on peut utiliser pour faire cette expérience.
Un réflecteur laser posé donc sur la surface.
On a posé des sismomètres, par exemple, sur la Lune. Et on a découvert ainsi qu'il y avait toujours des petits tremblements de Lune. En étudiant ces ondes sismiques, on peut en déterminer l'intérieur, ce genre de choses.
D'accord, reste avec nous Simon Rosé, c'est passionnant. Vos questions nous intéressent, aucune question... n'est stupide pour dire simplement les choses. Donc appelez-nous, toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. On reviendra juste après le journal sur toutes les rumeurs, toutes les théories de complot qui remettent en question la mission Apollo 11. Restez à l'écoute des RFI.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.